il y a 2000 ans, avec sa première venue, ce qui nous célébrons pendant cette période Noël. Et comme nous l'avons vu en Actes 1, 11, ce même Jésus qui était parmi nous sur terre et qui est monté au ciel, il va revenir un jour. Il va revenir de la même manière dont il est parti, c'est-à-dire physiquement, corporellement. Jésus sera de retour sur terre. Mais cette fois-ci, il va venir non pas comme un bébé, mais comme le roi, comme notre roi. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous ne savons pas quand ça sera. Et il faut donc rester vigilant et éveillé. Dans le temps avant son retour, nous avons une grande tâche à accomplir. C'est d'être ses témoins sur terre. La lumière dans les ténèbres. Que Jésus nous trouve prêts à son retour. Et si nous avons parlé du quand la dernière fois, je vous ai annoncé aussi qu'aujourd'hui, nous aborderions la question du pourquoi. Jésus revient pour faire quoi? Alors, ça peut sembler évident peut-être. Jésus revient pour nous amener au ciel, n'est-ce pas? Et dans un sens, c'est vrai. Mais en fait, on peut en dire beaucoup plus. Nous en avons déjà parlé un peu l'année dernière, pendant le message sur le jugement dernier. Et je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit à ce moment-là. Aujourd'hui, nous allons essayer d'avoir un regard plus large sur le retour de Jésus et ce que ça implique. Il y a le jugement dernier, bien sûr. Mais cela n'est pas en fait le but ultime de son retour. Le but ultime de son retour est beaucoup plus grand et beaucoup plus beau, en fait. Et pour saisir la beauté de ce que ce sera, j'aimerais d'abord vous reposer la question que j'ai posée au début du culte. Qu'est-ce qui vous fait souffrir dans cette vie? Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te fatigue? Quelles sont les difficultés que tu as vécues ou que tu vis actuellement, en ce moment, qui te font souffrir? Je sais que ce n'est pas toujours agréable d'y penser. En tant qu'être humain, nous avons souvent l'habitude de nous protéger de la souffrance en n'y pensant pas. Mais juste pour un instant, pensez à ce qui vous fait souffrir dans cette vie. Et puis, posez-vous la question. D'où vient cette chose? Quelle est la cause de cette souffrance? Pour certains, ce sera une relation brisée. Pour d'autres, une maladie. Pour d'autres, ce sera des déceptions et des découragements profonds par rapport à notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Parfois, c'est tout simplement le fait que nous n'arrivons pas à être la personne que nous voulons être, ou la personne que Dieu veut. Quelle que soit votre réponse à cette question, qu'est-ce qui vous fait souffrir? Je dois vous dire que souvent, quand on se pose ce genre de questions, quelle est la cause de mes difficultés? La première réponse n'est pas la bonne. La première chose qui vient à l'esprit n'est pas la vraie cause. Ce n'est pas qu'elle est forcément complètement fausse, mais souvent, elle ne va pas assez loin. Elle n'est pas la vraie cause, la cause la plus profonde. La vraie cause, la racine de ces choses qui nous fait souffrir, que ce soit dans notre vie relationnelle, personnelle, professionnelle, spirituelle ou autre, la racine de ces problèmes c'est le fait que nous sommes tous des êtres brisés et nous vivons dans un monde brisé. Un monde marqué par le péché. Le nôtre autant que celui des autres. Un monde ainsi marqué aussi par la mort. Alors, pour le dire autrement, la vraie cause de ces souffrances auxquelles je vous ai demandé de penser, c'est la séparation qui existe entre notre monde et Dieu. Nous voyons la description de cette séparation tout au début de la Bible, en Genèse 3. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu explique les conséquences. Et je vais lire le passage. Vous pouvez trouver si vous voulez, mais vous pouvez juste écouter si vous préférez. C'est Genèse 3. Je vais commencer au verset 16. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants dans le monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme manger du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, c'est un passage compliqué, très riche, très profond, et on pourrait dire beaucoup de choses sur ce passage. Mais voici le point essentiel. Ici, nous avons une description détaillée des conséquences de notre séparation avec Dieu et celle du monde entier. En choisissant de désobéir, l'humanité a permis au mal d'entrer dans le monde. Et ce mal touche chaque aspect de notre vie sur Terre. Chaque aspect de la vie sur Terre. Il touche le monde naturel. Il touche notre relation avec notre travail. Il touche nos relations les uns avec les autres. Il touche notre relation avec Dieu. Et il touche même notre relation avec la vie elle-même. Parce que nous ne pouvons plus vivre dans la sainte présence de Dieu. Et avant, Adam et Ève avaient accès à l'arbre de vie. Mais maintenant, ils doivent quitter cet endroit béni et de ne plus en manger. C'est une description de la séparation totale de notre monde d'avec Dieu. Et on pourrait faire toute une étude sur les façons dont on voit la grâce de Dieu, même au sein de cette situation horrible en Genèse 3. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, le but, en lisant ce texte, le but est de voir et commencer nos réflexions en se souvenant comment les malheurs que nous vivons dans ce monde viennent de cette séparation entre Dieu et l'humanité causée par le péché. Et c'est très important de regarder tous ces aspects de cette séparation ici au début de la Bible, parce que nous allons voir après en Apocalypse, à la fin de cette même histoire, que c'est cette séparation qui va un jour disparaître éternellement. On ne peut pas comprendre le message de l'Apocalypse sans bien comprendre le message de Genèse. C'est pour ça qu'on commence là. Ce que nous allons voir en Apocalypse, c'est que toutes les malédictions que nous avons tirées sur nous-mêmes, tout le dommage qui a été fait par le péché dont nous lisons en Genèse, tout ce dommage sera défait. C'est très instructif de lire Apocalypse 21 et 22 à la lumière de Genèse 2 et 3 et vice-versa. Et je vous l'encourage à la maison, prendre ces quatre chapitres, Genèse 2 et 3 et Apocalypse 21 et 22, et les regarder ensemble. Nous allons lire maintenant, par exemple, Apocalypse 21. Nous allons commencer au verset 1, Apocalypse 21. Puis, après le jugement dernier, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et puis, si on saute au chapitre 22, ou au verset 22, excuse-moi, 21-22, je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et chapitre 22. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe ni de celle du soleil parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Alors, la première chose, ce sont de longs passages et je pense qu'il vaut la peine de les lire attentivement. Et la première chose qu'on peut dire pour résumer ces passages et le point principal de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que Jésus revient pour régner, tout simplement. Et encore, ça peut ressembler évident, mais tout le reste découle de ce simple fait. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ils régneront au siècle des siècles. Et si on lit attentivement, on constate quelque chose d'étonnant, peut-être. C'est que ce règne que nous voyons ici en Apocalypse, il est où? Il est sur la terre. La nouvelle Jérusalem qui est décrite ici, avec Dieu lui-même pour sa lumière, cette ville est sur la nouvelle terre. Il descend du ciel nouveau, mais il finit sur terre. Mais vous allez dire peut-être, je pensais que la terre allait être détruite à la fin du monde. Et c'est vrai que nous lisons en 2 Pierre 3:10 qu'à la fin, la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Alors, la première chose dont il faut se souvenir, c'est que le feu dans la Bible est souvent un feu purificateur qui ne détruit pas complètement, mais qui purifie, comme en 1 Corinthiens 3, par exemple. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est qu'ici en Apocalypse, il s'agit d'une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Une terre renouvelée. Et donc, cette descente de la ville de Dieu sur la nouvelle terre, ça nous montre quelque chose de très, très important. Ça nous montre que désormais, le ciel et la terre seront éternellement liés, unis. Dès ce moment-là, il n'y aura plus aucune séparation entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'humanité. Et c'est logique quand on y pense, car le ciel, c'est quoi finalement? Le ciel, dans le sens du paradis, c'est quoi? C'est tout simplement la demeure de Dieu, c'est le lieu où Dieu habite. Et au retour de Jésus, Dieu va être présent sur terre dans toute sa plénitude, dans toute sa gloire. Ça veut dire que le nouveau ciel vient avec lui. Il vient sur la nouvelle terre avec le nouveau ciel et les deux seront à jamais unis. Plus aucune division entre les choses de l'homme et les choses de Dieu, car Dieu habitera parmi son peuple, parmi nous à jamais, de façon concrète et visible. Et encore, pour comprendre à quel point cette vie sera plus belle que le monde actuel, il faut bien noter le contraste entre ce que nous avons lu en Genèse et ce que nous lisons ici. Presque chaque élément du récit du jardin qu'on trouve en Genèse se retrouve ici en Apocalypse. Mais maintenant, au lieu de lire de malédiction et de séparation, on lit de bénédiction et de restauration. Comme au jardin, il y aura un fleuve dans la ville. Mais maintenant, c'est le fleuve de l'eau de la vie. Et l'arbre de la vie, elle est là, il est là aussi, comme dans le jardin. Mais maintenant, en Apocalypse, il est bien précisé plus loin dans le verset, dans le passage, que nous aurons encore le droit d'en manger. Vous n'êtes jamais rendu compte? Nous aurons le droit de manger de l'arbre de vie. La porte d'Éden avait été fermée éternellement, mais les portes de la nouvelle Jérusalem seront ouvertes à jamais. La terre ne sera plus une source de frustration, car l'arbre de vie donnera librement son fruit. Et ce sera pour la guérison des nations. Et au centre de tout ça, le Père et le Fils vont régner au siècle des siècles. Voilà pourquoi Jésus revient. Et voilà la liste des contrastes entre Genèse et Apocalypse, les parallèles. On passe de la malédiction à la bénédiction, de la séparation à la restauration, du fleuve terrestre au fleuve de vie, de l'arbre qui était interdit à la permission d'en manger, des portes fermées aux portes ouvertes, de la terre maudite à une terre épanouissante, à un jardin avec l'homme au centre, à une ville avec Dieu au centre. Voilà pourquoi Jésus revient. Pour régner sur la nouvelle terre et pour défaire tout ce qui s'est passé en Genèse 3. C'est une belle image. Gardez-la bien à l'esprit parce qu'on y revient avant la fin. Mais d'abord, comme dimanche dernier, je vais faire une petite parenthèse, en fait, finalement, une grande parenthèse, sur un point un peu compliqué. Parce que si ce passage est très clair sur le règne ultime de Dieu sur la nouvelle terre et la restauration de toutes choses, il y a quand même certains débats autour de ce qui va arriver avant ce règne ultime. Et ça peut être utile d'en être conscient. Même si encore, je souligne que ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est ce que nous venons de voir. Et ne vous inquiétez pas trop si vous trouvez cette partie un peu difficile à suivre. La chose la plus importante est ce que nous venons de voir, le renouvellement de la terre et le règne éternel de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Et tous les évangéliques, et tous les chrétiens presque même, sont d'accord sur ça. C'est ça qui est la plus importante. Et nous y revenons à la fin du message. Mais alors, pour parler du débat, quand on parle de ce règne ultime de Jésus, la complication est que l'Apocalypse n'évoque pas uniquement ce règne-là. Au chapitre 20, si vous connaissez très très bien votre Bible, vous savez peut-être qu'au chapitre 20 d'Apocalypse, il parle aussi d'un autre règne de Christ, un règne qui précède le règne éternel dont on vient de lire, un règne qui va durer 1000 ans et qu'on appelle donc le millénium. Et si vous avez dû écouter beaucoup de débats sur ce sujet, vous allez peut-être vous dire « Oh non, on ne veut pas parler de ça ». Je peux vous dire, après 4 ans à l'Institut biblique, je ne voulais pas parler jamais du millénium parce qu'il y avait tellement de débats là-dessus. Mais je vais résumer un peu le débat pour vous. La description de ce règne se trouve en Apocalypse 20, juste avant les passages que nous venons de lire. Et je vais lire le résumé, c'est Apocalypse 20, 1 à 3. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et cela l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Alors, et puis on lit que pendant ces 1000 ans, des croyants vont régner avec Christ, et après ces 1000 ans, il y aura le jugement dernier, et puis enfin la nouvelle terre et le nouveau ciel dont on vient de parler. Alors, en résumé, l'Apocalypse nous présente en fait deux règnes de Christ. C'est ça la complication. Le premier, sur la terre actuelle, qui va durer 1000 ans, une durée limitée, et puis le deuxième sur la terre nouvelle et qui n'aura pas de fin. Et puisque c'est un peu difficile de garder en tête tous ces éléments, j'ai mis l'essentiel sur l'écran. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais nous avons l'essentiel, le retour du Christ avec le jugement dernier. J'ai mis un petit livre pour le jugement dernier, parce que ça sera le livre de vie qui détermine le jugement. Donc, le retour du Christ, le jugement dernier, son règne éternel dans la nouvelle Jérusalem, avec bien sûr la croix et la résurrection comme point de départ. Et l'âge d'Église, ce qui est maintenant. Alors, à ça, on peut rajouter la possibilité qu'il y ait un enlèvement des chrétiens un peu avant le retour définitif, qui serait là. C'est le débat dont nous avons parlé la dernière fois. Mais aujourd'hui, c'est la question du règne de 1000 ans, le millénium. Où se trouve ce règne sur notre frise chronologique? Il y a deux possibilités. Soit il sera là, vous voyez, il sera là entre le retour du Christ et le jugement dernier. Soit il sera là, entre le retour du Christ et le jugement dernier. Entre la croix et son retour, excusez-moi. Et dans ce cas-là, ce serait maintenant. Et selon cette interprétation, les 1000 ans sont symboliques alors. Pas littéralement 1000 ans, mais une période définie et longue, sans être éternelle, pendant laquelle Jésus règne spirituellement. Alors, quels sont les arguments pour les deux perspectives? Je vais les résumer très rapidement. L'idée que le règne de 1000 ans est maintenant et que c'est un règne spirituel se base surtout sur deux idées principales. D'abord, cette perspective entend l'enchaînement de Satan dont nous venons de lire comme une description de ce qui s'est passé lorsque Satan était vaincu à la croix et la résurrection de Jésus. Donc c'est le premier point pour cette partie. Et dans ce cas-là, Apocalypse 20, 1 à 3 est une sorte de flashback aux évangiles. Ce qui voudrait dire alors que le règne dont on parle ici, c'est le règne de Jésus qui a commencé à son ascension, au moment où il a commencé à siéger à la droite du Père. Alors, par contre, l'idée que ce règne n'a pas encore commencé se base aussi sur deux choses principales. D'abord, c'est clair que Satan n'a pas encore perdu toute sa puissance. Et donc, certains disent que même s'il était vaincu à la croix, cet enchaînement dans ce passage ne parle pas de cette victoire à la croix, et ça veut dire donc qu'il doit être toujours à l'avenir. Et deuxièmement, un détail compliqué, en Apocalypse 24, nous lisons que les chrétiens qui règnent avec Christ pendant cette période auront déjà expérimenté une sorte de résurrection. Et vu que la résurrection des croyants n'aura lieu qu'au retour du Christ, encore, ce passage ne peut pas être un flashback, mais plutôt une vision de quelque chose encore à venir. Voilà. J'ai l'impression de donner un cours dans un institut. Mais je sais que vous allez entendre ces choses. Pour certains prédicateurs, c'est très très important. Ils le mettent à l'avant. Et ça peut être déstabilisant d'entendre d'une chose d'un côté, une autre chose de l'autre côté. Donc je voulais que vous soyez au moins au courant. Mais que devrions-nous dire par rapport à tout ça? Je vous les partage tout simplement parce que c'est important d'être au courant. Mais comme pour le débat sur l'enlèvement, les églises et les théologiens évangéliques, même dans notre association baptiste, ne sont pas tous d'accord. Chaque côté a une réponse à l'autre sur les points que je viens de souligner, une réponse qui s'appuie sur la Bible, et chaque côté va avoir sa réponse selon leur compréhension de certains passages difficiles, de certains termes difficiles, et même de comment décortiquer le livre d'Apocalypse. Parce que le livre d'Apocalypse n'est pas un livre simple. Alors, ce ne sont pas des questions faciles. Ce qui n'est pas pour dire que c'est inutile de les poser, mais c'est pour dire que si on arrive à une opinion là-dessus, il faut le faire avec beaucoup, beaucoup d'humilité, et puis il faut toujours être capable de revenir à l'essentiel. Et c'est pour ça que nous avons décidé de ne pas prendre position sur cette question en tant qu'Église. Moi, j'ai un avis personnel, comme j'en ai un pour l'enlèvement. Mais je peux vous dire que je n'ai pas toujours eu ce même avis. J'ai changé d'avis dans ma vie sur cette question. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont l'autre. Comme toujours, Jean-Serge et moi, nous sommes là pour vous en parler plus, si c'est quelque chose qui vous intéresse, et surtout si c'est quelque chose qui vous préoccupe, on est là pour ça. Mais pour ce matin, je vais simplement vous dire que ces deux points de vue existent, et l'essentiel est quand même que Jésus revient pour régner. À la fin, tout le monde est d'accord, à la fin, voilà. C'est le règne éternel du Christ sur la nouvelle terre. Ce règne va effacer à jamais la séparation entre le ciel et la terre, entre l'humanité et Dieu. Et à la lumière de cette vérité-là, je vais terminer ce message avec un deuxième point essentiel. Donc, fin de parenthèse. Si l'Apocalypse nous donne une vision du règne ultime du Christ, il ne faut pas oublier que Jésus est déjà le roi. Et il règne déjà. Pas forcément de la manière dont il va régner à la fin, bien évidemment, parce qu'on en a été clair, ça sera physiquement, corporellement, et pour le moment c'est un règne spirituel, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, que ce n'est pas vrai. Jésus règne déjà. Nous avons déjà vu le bel avenir qui nous attend. À ce moment-là, le règne de Dieu, le royaume de Dieu se manifestera physiquement, visiblement sur terre, et tout ce qui était brisé sera restauré. Mais il ne faut jamais oublier que ce règne et cette restauration ont déjà commencé. C'est là le sens de la résurrection. Cette restauration a déjà commencé. Si nous lisons attentivement les évangiles, de quoi parle Jésus sans cesse? Vous avez jamais constaté? Jésus parle sans cesse de son royaume. Et si nous lisons les évangiles attentivement, nous voyons comment Jésus instaurait déjà son règne, son royaume sur terre, partout où il allait. Et il en parlait sans cesse, non pas au futur, mais au présent. Le royaume de Dieu est parmi vous, il dit. Le royaume de Dieu est comme du blé semé parmi les mauvaises herbes. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde ou du levain, parce que ça commence petit, dans un monde plein de mauvaises choses. Mais il grandit. Il grandit et il est présent partout où les gens mettent leur foi en lui et où ils commencent à vivre pour lui. Ce royaume est présent déjà autour de nous si nous apportons le même amour et la même lumière que Jésus a amené. Voilà pourquoi il nous a enseigné de prier quoi par rapport à son royaume. Que ton royaume vienne. Et ça, ce n'est pas une prière pour son retour. On peut bien prier pour ça aussi. Mais cette prière-là est une prière que son règne croisse en nous et autour de nous. Si les grandes et les petites choses, les petites souffrances de notre vie viennent du fait que ce monde est séparé de Dieu, il ne faut jamais oublier que pour régler ce problème, Jésus nous est déjà venu. C'est tout le sens de ce qu'on va fêter la semaine prochaine. Oui, jusqu'à son retour, il restera du mal dans le monde. Les mauvaises herbes de la parabole, jusqu'à son retour, nous aurons des difficultés et des souffrances à cause de la séparation entre Dieu et son monde. Mais par la victoire de Jésus à la croix et à la résurrection, nous avons déjà accès à Dieu. La séparation n'est plus complète. Cette barrière est déjà tombée. Le voile du temple est déchiré. Il suffit de l'accepter, de reconnaître que tu es pécheur et de mettre ta foi en Christ pour y entrer et pour expérimenter un avant-goût du règne ultime. Un avant-goût de ce que nous lisons en Apocalypse 21 et 22. Est-ce que tu te rends compte, en lisant Apocalypse 21 et 22, que tu peux déjà avoir un avant-goût de ce merveilleux avenir. Je vous encourage, à la maison, lisez Apocalypse 21 et 22. Et regardez où dans votre vie est-ce que vous voyez ces choses qui commencent maintenant. Un avant-goût de ces choses déjà. Vous vous souvenez de l'arbre de vie dont on a lu au chapitre 22, verset 2? Tu vas en manger un jour, mais tu as déjà la vie éternelle, le fruit de cet arbre en toi si tu as mis ta foi en Christ. Et l'eau de la vie? Oui, nous allons en boire un jour dans la ville éternelle, mais nous avons déjà Jésus qui donne l'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Et la présence de Dieu? Oui, un jour, nous nous rassemblerons autour de son trône pour l'adorer, au centre de la grande ville céleste qui est descendue sur terre. Mais si nous avons mis notre foi en lui, qu'est-ce que nous avons fait ce matin? Nous avons adoré Dieu avec lui au centre de notre assemblée. Et nous avons déjà son esprit en nous, le gage de notre héritage, l'avant-goût de ce qui est à venir. Alors, je pense que parfois, nous ne faisons pas assez d'attention. Alors, les enfants reviennent, et moi j'ai presque terminé. Mais je pense que parfois, nous ne faisons pas assez d'attention à cette idée d'avant-goût. Pendant que j'écrivais ce message, j'écoutais mes filles préparer leur cœur, leur cours de guitare et de piano dans la pièce à côté. Et bien évidemment, puisqu'elles sont toujours en train d'apprendre, ce n'était pas parfait. Mais ce n'était pas rien non plus. J'ai pu reconnaître le chant qu'elles jouaient, ce qui n'est pas toujours le cas quand on commence à jouer un instrument. Et je me réjouissais d'entendre cette musique dans ma maison. En même temps, j'ai pu reconnaître aussi qu'une partie de ma joie, une grande partie de ma joie en fait, venait de ce que ça signifiait, de ce que ça serait dans un an ou dans 5 ans, lorsqu'elles auront vraiment maîtrisé leurs instruments. J'expérimentais un avant-goût de ce qui était à venir. Le règne de Dieu sur terre est actuellement comme ça, comme cette musique que j'écoutais. Il n'est pas encore ce qu'il va être un jour, mais il est déjà quelque chose quand même. Et une grande partie de la joie que nous pouvons avoir en vivant et en voyant ce règne déjà en nous et autour de nous se trouve en reconnaissant ce que ça indique pour notre avenir. Chaque pas en avant que nous prenons, chaque moment de grâce et d'amour que nous expérimentons, chaque action de l'Esprit en nous et autour de nous maintenant, ce sont des petits témoignages de l'avenir qui nous attend. Ces moments sont déjà importants en eux-mêmes, bien sûr, comme la musique qu'il y avait dans la maison cette semaine, mais ils sont aussi un rappel de l'avenir, un rappel de l'amour, du torrent d'amour et de grâce et de joie et de bénédiction qui nous attend. Quand nous voyons ces choses dans notre vie et dans notre monde, nous devons les reconnaître comme les signes qu'elles sont, les signes de l'avenir qui nous attend. Nous devons avoir cette habitude de regarder ce qui se passe dans notre vie et voir les avant-goûts du règne éternel de Jésus. Mais alors, si cet avenir nous est offert, il faut l'accepter. En laissant tomber nos prétentions à l'autosuffisance et à la sainteté en nous-mêmes, et en nous repentant, et en mettant notre foi en Jésus seul. Pour participer à ce bel avenir, il faut accepter Jésus dans le présent, maintenant. Parce que ce n'est pas tout le monde qui entrera par les portes ouvertes de la Nouvelle Jérusalem. Vous avez constaté, nous avons lu, chapitre 22, verset 6, « À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » Mais il faut au moins avoir soif. Il faut être prêt à accepter cette eau. Le prochain verset précise, le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Le vainqueur, c'est qui? C'est celui qui a soif, qui reconnaît qu'il a soif et qui vient à Jésus pour avoir de l'eau. C'est cette personne qui sera le fils du roi Jésus. Et si tu es là ce matin et tu as soif, tu es sur le bon chemin. Même si tu n'as que soif d'avoir soif, c'est déjà bien, parce qu'il faut commencer quelque part. Et si tu as accepté cette vie, cette eau vive, cet avant-goût de notre héritage, maintenant il faut le vivre. Il faut se laisser remplir de l'Esprit pour que son règne vienne d'abord en nous et puis sur la terre. Son règne vient d'abord en nous. Si la vision de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel nous montre comment la séparation entre l'humanité et Dieu sera un jour complètement effacée, il faut que nous laissions Dieu l'effacer déjà en nous, en l'invitant à être notre roi aujourd'hui. Un frère de notre assemblée m'a envoyé un petit mot cette semaine pour partager quelque chose qu'il a lu pendant son culte personnel un jour. C'était sur la prière. Les personnes qui prient posent un pas dans l'éternité. Et c'est vrai. Les personnes qui prient posent déjà un pas dans l'éternité. Par la prière, par l'adoration et par l'amour les uns pour les autres, nous pouvons déjà poser un pas dans cette éternité qui nous attend. Parce que nous invitons le roi éternel en nous. Par la foi en Jésus, nous mettons déjà un pas dans l'éternité qui nous attend. Par ces choses, nous supprimons déjà petit à petit la ligne entre la terre et le ciel. Et un jour, cette ligne disparaîtra complètement. Plus de relations brisées, plus de frustration dans notre travail, plus de lutte contre le péché. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Notre roi sera revenu, et son royaume s'entendra de l'est à l'ouest. Et avec cette ferme espérance, nous pouvons voir cette règne déjà autour de nous, et nous ne pouvons que dire avec l'apôtre Jean, Amen, viens Seigneur Jésus, viens. Amen. Je vous invite à vous lever en réponse à cette vision du règne de Christ qui vient sur la terre.